Bonjour, je suis Cécile Deniard, je suis la présidente de la SOFIA, dont je vais vous dire deux mots à l'instant. Je remercie beaucoup le Festival du Premier Roman et l'Association Lecture Plurielle de nous accueillir. Déjà hier soir pour l'inauguration et notre remise du Grand Prix de l'Action littéraire, et aujourd'hui dans le cadre de cette journée de réflexion pour une table ronde autour des festivals. Alors, avant d'entrer dans le vif de la table ronde, je vais nous présenter un petit peu. Dans un premier temps, vous allez peut-être penser que c'est éloigné du sujet, mais suivez quand même parce que j'y reviendrai après. Vous verrez que tout est lié, tout est lié. Alors, donc, la SOFIA. Nous sommes un organisme de gestion collective qui regroupons 10 000 auteurs du livre et un millier de marques éditoriales. 500 éditeurs, voilà. Organisme de gestion collective, c'est la SACEM du livre, c'est-à-dire que nous avons pour mission de collecter et répartir des droits qui sont destinés aux auteurs et aux éditeurs de livres. Donc principalement, ça bouge tout seul. Hein. Bon, je vais le connaître par cœur, mais principalement le droit de prêt en bibliothèque et la copie privée numérique destinée aux livres. Donc chaque fois que vous achetez un appareil comme une clé USB, une tablette, un ordinateur qui vous permet de copier une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, de la musique, un film ou un livre, il y a une petite partie du prix d'achat qui est collectée pour la copie privée numérique et une petite partie encore qui est destinée au secteur du livre et c'est à nous qu'elle est donnée. Et donc droit de prêt, c'est 11 millions versés aux ayants droit, auteurs, éditeurs. Avec ça, on finance aussi la retraite complémentaire. Copie privée numérique, en 2021, il y a eu près de 15 millions versés aux ayants droit et plus de 5 millions fléchés vers l'action culturelle. Ça, c'est la loi. Sur cette redevance copie privée numérique, il y a toujours 25% des sommes qui doivent aller à financer la création donc du secteur concerné. Je vais y revenir plus en détail. S'il y a des auteurs et des éditeurs dans la salle, vous venez nous voir de toute urgence. On va vous expliquer comment avoir plus de sous. Donc la copie privée, donc ce que je disais, on la perçoit, on la redistribue et on en affecte 25%. Les grands principes que nous suivons dans notre action culturelle, des actions qui ressortent exclusivement du domaine du livre, vous notez le « exclusivement ». Vous le mettez en mémoire. Festival, rencontre littéraire, action d'éducation artistique et culturelle, formation professionnelle, défense des intérêts, rencontre interprofessionnelle. Un des critères très importants pour nous, c'est que les auteurs soient rémunérés selon une grille qui nous est commune avec le CNL et la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Et depuis 2021, nous demandons également qu'il y ait un accord écrit en amont des manifestations entre les auteurs et les manifestations sur les conditions d'intervention, formalisées un petit peu plus que ça n'était le cas auparavant. Nous examinons bon an, mal an 400 dossiers, nous en retenons 350. Voilà, ça concerne tout type d'animation, donc l'aide à la création dans laquelle nous mettons festivals, les salons, les rencontres, actions de défense et de promotion et d'information, aide à la formation, je le disais, et action d'éducation artistique et culturelle. Ça concerne absolument tous les champs littéraires, toutes les régions. Alors, vous voyez que Auvergne-Rhône-Alpes est très, très bien représentée avec 40 dossiers. Vous êtes notre première région avec l'Île-de-France. Voilà, avec 36 festivals rencontres littéraires, notamment. Voilà, avec la crise, juste un dernier petit point sur la façon dont nous avons accompagné ces manifestations et les auteurs, particulièrement depuis 2 ans avec la crise sanitaire. Dès le lendemain du déclenchement, dans un même mouvement d'ailleurs que le CNL par exemple, nous avons maintenu nos aides à toutes les manifestations, mais en demandant à ce que les auteurs qui étaient initialement programmés soient rémunérés dans les mêmes conditions que prévu. Nous avons donc mis en place cette obligation de signature d'un accord de prestation et abondé le fonds d'urgence la première année. Nous avons mené des enquêtes auprès des festivals, tant l'an dernier qu'en début de cette année. ce qui nous, alors, près de 200 nous ont répondu. Donc les statistiques qu'on peut en tirer, c'est que en 2021, 93% des manifestations ont pu se tenir contre 50% l'année précédente. Donc on mesure. Alors la situation sanitaire a été moins difficile aussi. On a été moins pris de court, mais il y a aussi une part d'adaptation de la part des festivals dans le fait que elles ont pu se tenir. Seulement 7% d'annulation. Elles se sont tenues très majoritairement en présentiel. 75%, 20% ont mixté et seulement 5% en virtuel. À 85%, elles ont pu se maintenir à la date prévue. Et dans 99% des cas, elles ont pu rémunérer les auteurs et autrices. Voilà. Et sur la projection, donc les retours qu'on a eus sur perspective 2022 étaient bonnes. En tout cas, en début d'année, le moral était bon. Donc on espère que l'année 2022 sera un bon creux. En tout cas, nous, de là où on était, on a été vraiment admiratif de la capacité de rebond et d'adaptation, de la créativité dont ont fait preuve tous les festivals pour passer ces moments difficiles avec des annulations parfois au dernier moment et puis et des adaptations forcées, des programmes à remettre sur le métier plusieurs fois. Et vraiment, on a été heureux de pouvoir les accompagner de notre mieux. Alors, j'arrive maintenant au cœur de notre thématique. Vous avez vu que, je l'ai souligné, notre règlement d'action culturelle indique que nous finançons des actions qui sont exclusivement tournées vers le livre. Quand le festival Lecture Plurielle nous a indiqué que, bah oui, notre table ronde, ça serait bien qu'elle s'insère dans cette journée de réflexion autour de la croisée des arts. Très sincèrement, mon premier mouvement, c'était de dire, ah oh non, mais ça, pour nous, c'est un problème. Pour nous, et d'ailleurs, je voulais dire ça, remercier Madame Françoise Dubord pour sa conférence et sa prise en charge théorique. Vous m'avez confirmé que c'est très compliqué et que pour nous, c'est un problème. C'est-à-dire que nous gérons des droits. Il faut que les œuvres aient une nature, il faut qu'elles aient un auteur et que nous puissions flécher les droits vers les auteurs. Donc tout le tableau que vous avez décrit à la fin sur le brouillage des frontières, le brouillage même de la notion d'auteur, etc., pour nous, c'est un problème de gestion. Donc ça a été notre premier recul de nous dire, ah, d'accord, mais ça on l'envisage comme un questionnement en tout cas, parce que par exemple, très concrètement, quand on examine les 400 dossiers, il y a toujours, sur une année, il y en a une poignée où on va dire, ben, non, ça tombe plutôt du côté du spectacle vivant, donc on va plutôt les renvoyer à la SACEM. Mais il y a bien des dossiers où on est vraiment sur une corde raide et on pèse au trébuchet, est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pas pour nous? Et il y a tous ceux aussi qui croisent véritablement deux arts, littérature et musique, par exemple, c'est un format qu'on retrouve plusieurs fois. Et là, c'est pareil, on en est à essayer de mesurer, est-ce que c'est un tiers livre, est-ce que c'est deux tiers livre? Voilà. Donc, en tout cas, pour nous, c'est un questionnement, mais qu'il est intéressant de creuser, puisque justement, comme vous l'avez très bien montré, à la fois c'est vieux comme le monde, et en même temps, il y a là une époque et des outils qui font que de nouvelles formes apparaissent et qui nous incitent à réfléchir. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir pris en charge le côté théorique. Nous, on va être un petit peu plus pratico-pratique. Partage d'expérience de la part de festivals et d'auteurs qui mettent ça en œuvre concrètement. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous Dominique Rouet, qui est directeur de la lecture publique de la ville du Havre, là j'ai bien descendu, qui à ce titre, bah, vous allez pouvoir corriger tous, qui à ce titre prend en charge particulièrement l'organisation du festival Le Goût des Autres, qui a lieu en janvier depuis, vous avez fêté vos 10 ans, c'était la 10e édition. À côté de vous, Daniela Faraille, qui est l'organisatrice de cette journée, la programmatrice de cette journée. Pas toute seule. Non, elle est très modeste, Daniela. J'ai presque dû la forcer à participer à cette table ronde. Non, mais l'idée du thème venait de Chambéry. Il me paraissait intéressant qu'ils nous fassent part de leur expérience et de leur réflexion sur le sujet. Daniela s'occupe au sein de l'association particulièrement des relations internationales, des relations avec les établissements scolaires et universitaires, et puis donc de la programmation avec d'autres du festival et de cette journée. Encore à côté de vous, Sébastien Planas, qui est président du Festival international du livre d'art et du film à Perpignan, qui a connu 10 éditions. Et vous allez nous faire part de cette aventure que ça a été et puis de la manière dont aujourd'hui votre action va se transformer. Et puis, alors, je signale, nous avons espéré un moment avoir... C'est là que je tombe sur un os. Nous avons espéré un moment avoir avec nous Nathalie Chrome de Télérama qui faisait partie du jury de notre Grand Prix. Mais elle nous avait prévenu dès le départ que voilà, il y a des impondérables dans la presse et actuellement elle est retenue à Paris parce qu'elle fait la permanence du service à Télérama. C'est comme ça. Et puis alors Wilfried Sondé, ça c'est une tristesse. Il a un pépin de santé. Il est vraiment très très désolé d'avoir dû annuler sa présence aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Il avait énormément de choses à dire sur le sujet. C'est pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il est un auteur vraiment à l'enthousiasme universel et aux expériences multiples. Donc peut-être que j'aurai l'occasion à certains moments de dire « Alors Wilfried m'a dit que, qu'en pensez-vous » Et alors ben, j'ai la chance d'avoir deux guest stars pour représenter le point de vue des auteurs que j'avais emmené dans mes valises parce qu'ils font partie du jury du Grand Prix de l'Action littéraire, qui sont pour l'un membre du conseil de la SOFIA et membre de notre commission d'action culturelle. Et je les remercie beaucoup d'avoir relevé le défi au pli élevé. Nous avons donc Carole Zalberg, qui est romancière, qui a publié l'année dernière chez Grasset « Tes ombres sur les talons » et qui va sortir « Songbook » aux éditions L'Arbre à Parole en septembre, c'est ça. Et puis Hugo Boris, qui est bien connu ici, puisqu'il a été distingué pour son premier roman en 2006, qui s'appelait Le baiser dans la nuque, chez Belfond. On peut signaler en particulier en 2020 Le courage des autres, chez Grasset, et bientôt, chez Grasset toujours, Débarqué. Voilà, et on vous demandera de nous faire part de vos expériences et de vos réflexions sur cette question de la croisée des arts vue par les auteurs. Voilà, j'ai beaucoup parlé, maintenant ça va être à vous de jouer. Je vais vous laisser la parole un peu longuement à chacun pour vous présenter vous personnellement et présenter un petit peu en longueur votre action, le festival que vous représentez pour qu'on sache qui parle d'où et pour qu'ensuite la discussion s'enclenche sur des thèmes. Alors j'ai environ 25 thèmes. Donc, on va voir déjà lesquels vous viennent en priorité.
Merci de cet accueil. Merci d'avoir invité, j'allais dire d'une certaine façon, Le Havre à participer à cet événement à Chambéry. Donc, je suis Dominique Rouet. Je suis, quelques mots me concernant, je suis conservateur des bibliothèques, donc directeur du réseau de lecture publique du Havre. Et vous l'avez dit, en charge également du goût des autres, du festival Le Goût des Autres, dont je vais vous dire quelques mots et vous expliquer dans quel contexte il s'inscrit. C'est un festival qui a 10 ans, donc il y a eu 11 éditions. Il a été créé en 2012 comme étant l'aspect événementiel et festif d'une politique publique que la municipalité du Havre et le maire du Havre, que je ne vous présente pas, Édouard Philippe, a souhaité mettre en place en 2012. Une petite anecdote quand même pour vous situer ce que c'est que la lecture publique dans l'action municipale au Havre. Lorsqu'Édouard Philippe a été élu, c'était en cours de mandat puisque son prédécesseur avait démissionné. C'était un dimanche, le mardi matin à 8h30, il était dans le bureau de la direction de la bibliothèque municipale. Quand un maire qui vient d'être élu débarque à 8h30 dans le bureau, dans une bibliothèque, croyez-moi, c'est pas courant. Et croyez-moi, ça veut dire qu'il avait des choses à nous dire. Et effectivement. Donc assez rapidement, s'est mise en place cette politique que l'on appelle tout simplement lire au Havre. Et là, je fais un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on se situe bien dans le champ du livre? Est-ce qu'on se situe ailleurs? Le festival Le Goût des Autres, il a clairement été conçu comme se situant dans le champ du livre, en tout cas dans ce qui est l'action culturelle de la municipalité au Havre. C'est clairement un élément parmi d'autres, un outil parmi d'autres qui rend très concrète et participative ce travail en faveur du livre et de la lecture. Donc ce n'est pas un festival qui vit tout seul ou qui a été créé comme un élément d'une politique culturelle toute seule. C'est clairement un outil qui s'intègre parfaitement à ce qu'on appelle chez nous Lire au Havre, qui est beaucoup plus vaste que ce simple aspect événementiel. Puisque dans Lire au Havre, finalement, on a une pléiade d'actions qui se déroulent dans les bibliothèques ou pas. Là encore, le réseau des bibliothèques est un outil de Lire au Havre, comme Le Goût des Autres. Et donc, parfois, ce que l'on peut imaginer comme, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, comme action culturelle à partir d'un festival ou en direction de publics éloignés, etc., au Havre, ce n'est pas forcément le festival qui remplit l'ensemble de ces fonctions-là, puisque nous avons aussi d'autres actions qui, dans l'année ou sous d'autres formes, peuvent être complémentaires ou bien se rattacher d'une manière ou d'une autre au festival, mais avoir lieu à un autre moment dans l'année. Et je n'entre pas tout de suite dans le détail. En tout cas, il me paraissait important de commencer en vous donnant ce contexte-là. Le Goût des Autres, un festival de création qui est un élément, une brique d'une politique publique qui est plus vaste, mais qui s'inscrit clairement dans le champ du livre et de la lecture plaisir.
Avant de commencer, peut-être pour atténuer un peu la frustration de ne pas avoir Wilfried Sondé parmi nous, sachez que vous pourriez quand même échanger avec lui samedi 21 mai à 15h à la Galerie Eureka. Il devait être présent à Chéranos, il sera présent par le biais de l'écran. Mais cette rencontre entre science et littérature, Wilfried Sondé échangera avec un neurologue, Laurent Vercueil. Donc vous pourrez échanger, éventuellement aussi faire un petit crochet, le questionner aussi sur des thématiques qui vous sont chères et qui appartiennent à cette journée. Pour ce qui est de Lecture Plurielle et du Festival du Premier Roman, Lecture Plurielle est une association qui a été créée il y a 35 ans à Chambéry. Et cette association est véritablement l'expression de deux volontés conjointes, l'expression de l'éducation nationale, d'un enseignant et de ce qui s'appelait la bibliothèque municipale à l'époque, la BM, et qui est maintenant le réseau des bibliothèques de Chambéry, pour une volonté de désacraliser la littérature auprès des publics scolaires, jeunes, et puis auprès du tout public. Pour désacraliser la littérature et la faire descendre un petit peu de son piédestal, c'était le constat essentiel qui avait été fait par l'enseignant. La volonté qui était développée, c'est de mettre en lien des auteurs qui rentraient en littérature pour la première fois avec des jeunes ou des personnes qui, pour certains d'entre eux, entrer en littérature, dans la lecture pour la première fois. Des auteurs qui étaient leur premier roman, donc peut-être plus disponibles par rapport aux écrivains, on va dire, installés, avec lesquels on peut établir des échanges, des correspondances épistolaires. À l'époque, pas encore de réseaux sociaux, donc ça passait par des lettres. Donc vraiment l'ADN de Lecture Plurielle est là. Cet ADN s'appuie sur deux piliers qui sont les deux missions de notre association. Les deux missions, ce sont la promotion de la lecture auprès de tout public. Le deuxième pilier, c'est la promotion de la création littéraire et des auteurs contemporains. À partir de là, nous déclinons toute une série d'événements. Nous organisons des ateliers, des rencontres, des formations, des rendez-vous divers et variés sur une saison littéraire et le moment fort, le Festival du Premier Roman. La particularité du Festival du Premier Roman est que les lauréats, donc les auteurs qui sont distingués au festival, les auteurs de premier roman sont choisis et sélectionnés uniquement par des lecteurs, par un grand jury populaire de lecteurs. Actuellement, nous avons environ 3000 lecteurs. Le réseau de lecteurs a vraiment est enraciné sur le bassin chambérien, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également dans d'autres départements, d'autres régions de France, et également à l'étranger. Et tous ces lecteurs qui lisent des premiers romans en français et en langue étrangère, pendant la saison de lecture, ensuite ils votent, et leur vote détermine et définit le palmarès des auteurs, des lauréats, qui sont ensuite invités au festival. Et pour peut-être répondre aussi à un questionnement, de se demander livre, pas livre, musique. Pour nous, en fait, ce n'est pas un problème, le fait de croiser les expressions artistiques, parce que ça a été une démarche, dès le départ, qui correspond aux deux piliers que j'ai évoqués, d'ouverture à tout public, et donc public aussi qui n'est pas sensible peut-être à l'expression écrite et qui a d'autres sensibilités artistiques, d'où cette démarche spontanée. Et pour cette raison, on ne s'est même pas posé la question de dire est-ce qu'on est dans le livre, dans le cinéma, dans la musique. C'est de faire croiser les expressions artistiques pour ouvrir à un public de plus en plus large, et également aussi de permettre un regard différent sur les œuvres, sur les romans. Donc rentrer aussi, permettre l'accès à la littérature par le biais d'autres expressions artistiques. Ça, c'est vraiment c'est une volonté qui est devenue un projet, mais on s'est jamais posé la question. La question peut-être se pose effectivement lorsqu'on fait des dossiers de subvention et on n'arrive pas à rentrer dans les cases, ce qui arrive souvent. mais initialement, notre démarche était vraiment une démarche d'ouverture. Et l'ouverture s'est traduite par cette ouverture à d'autres expressions, à d'autres artistes.
Merci.
Ah mais oui.
Excuse-moi.
Sinon, il fallait que je me penche. Je parle ou il y a des questions ou
Là, je présente. D'accord. Bon. Mais bonjour à toutes et à tous et merci au Festival de Chambéry et à la SOFIA de m'avoir invité à partager l'expérience du FILAF. Donc je m'appelle Sébastien Planas. Pendant 10 ans, j'ai été président du Festival de FILAF à Perpignan. Donc mon parcours vient plutôt de... En fait, j'ai commencé par être prof et juste après en fait, le concours, juste après l'agrégation, j'ai fait une spécialisation dans l'art contemporain. Et très rapidement ensuite, j'ai été directeur d'un centre d'art contemporain à côté de Perpignan pendant 8 ans, ce qui m'a mené à exposer des artistes vivants, à collaborer avec des galeristes, avec des institutions et des musées pour organiser pour une ville balnéaire à côté de Perpignan, des expositions avec toutes les fonctions institutionnelles qui sont liées au musée, à la valorisation des collections, aux expositions temporaires, aux collaborations avec des institutions similaires, et puis essayer d'avoir une fréquentation à la hausse, évidemment, avec une fonction touristique du musée. Etc. Donc j'étais en disponibilité. J'ai mis fin au contrat d'un commun accord avec la ville au gré d'un changement politique un peu compliqué. Et donc j'ai réintégré l'enseignement en fait à ce moment-là. Et c'est là où en fait l'idée du FILAF avec quelques amis a surgi. FILAF, c'est l'acronyme de Festival International du Livre d'Art et du Film. Donc un peu sur une idée comme ça spontanée à la fin d'un repas où on s'est dit voilà qu'est-ce qui vraiment nous animait, qu'est-ce qui nous anime un peu sur un constat de pas de dépit mais de constat de difficultés liées à l'institution qui était le musée, qui était celle que j'avais côtoyée professionnellement. Et puis de se dire, voilà, qu'est-ce qui vraiment nous ferait marrer, qu'est-ce qui nous provoquerait vraiment un engouement. Et en fait, le point commun qu'on a trouvé, c'était le livre. Tous les acteurs qu'on côtoyait, aussi bien les artistes, les conservateurs, les auteurs. Et donc, on est parti du livre au sujet de l'art, en fait, pas du livre de fiction, du livre sur l'art, du livre documentaire qui parle d'art. Parce qu'en fait, on a vu que tous, on avait ce fonctionnement qui est un peu impulsif, quoi, d'achat impulsif, de ces livres qui parfois sont super chers et qui nous font rêver. Tant pis, on l'achète et puis on le regarde. On a tous des livres fétiches comme ça sur des artistes qui nous fascine. Et puis donc le festival a été créé en 2010 comme ça, un petit peu sur une impulsion. On a créé une association qui s'appelle Cogito parce qu'on est plusieurs profs de philo et l'association continue d'exister. On mène d'autres projets maintenant et donc voilà, on a créé le festival un peu d'une façon un peu improvisée en ayant vraiment trois bouts de ficelle pour moyen et ça a super bien marché. En fait, on a été étonné par les réponses des invités qu'on sollicitait, parce que c'était un peu absurde de solliciter vraiment des gens qui pour nous étaient des artistes de référence ou des auteurs comme ça qui nous faisaient rêver. Et très tôt, en fait, ils ont répondu présent. On a associé la deuxième année le film documentaire sur l'art, parce qu'il n'y avait pas trop de festivals, en tout cas en France. Maintenant, il y en a un au Louvre. Il y en a un à Montréal, un au Louvre, à Naples. Ils ne sont pas très connus. Celui du Louvre se développe beaucoup. Donc, nous, on a associé en fait cette transversalité entre le livre et le film documentaire sur l'art. Donc, en fait, il était question d'art, mais à travers les livres et les films dont les gens venaient nous parler. Donc, du coup, l'auteur, parfois, c'était l'artiste. C'est un peu cette ambiguïté, ou alors le réalisateur et l'artiste étaient associés. Il y a cette position un peu ambiguë, souvent quand l'artiste est vivant, pour sa position dans la création de l'œuvre. Donc nous, c'était vraiment le livre documentaire sur l'art, c'est-à-dire le livre n'est pas une œuvre d'art. J'ai vu qu'à l'entrée, il y avait des enfants qui avaient fait des petites œuvres d'art, en fait, des livres en façon œuvre d'art. Eux, c'est des artistes. Nous, c'était vraiment un livre de librairie qui parle d'art, quoi. Et c'est un domaine pas beaucoup exploité. Je crois que ça représente 3-4%. Après, c'est difficile à catégoriser les beaux livres. Il y a ce truc, des fois, on met la cuisine avec. Et d'ailleurs, on avait fait un prix sur... Tout à l'heure, Madame parlait de l'œuvre d'art total et Wagner, etc. On avait beaucoup travaillé là-dessus parce que, en fait, en partant de la gastronomie, proche de Perpignan, entre Perpignan et Barcelone, il y a tout un tas de restos qui ont été super expérimentaux. Il y en a un qui s'appelait El Bouli à l'époque. On avait fait venir Ferran Adrià à Perpignan dès la première édition. Donc, c'était le chef numéro un à l'époque. Et il était venu, on était très impressionnés. Et lui aussi, d'ailleurs, a arrêté d'un coup son aventure. Et ensuite, on avait fait venir l'autre numéro un qui lui aussi était proche, enfin, son succédé, c'était El Cellier de Can Roca. Et Cellier de Can Roca, on avait projeté un film qui montrait comment ils ont essayé de faire une œuvre d'art totale à la Wagner, mais en ajoutant le fait de manger et de boire, en projetant des films sur la table, en associant des musiques. Et il y avait Miquel Barceló. C'était un seul repas qui a eu lieu, vous connaissez, à Santa Monica, à Barcelone, dans un centre d'art. Et vraiment, l'œuvre d'art totale, elle était allée jusqu'à ingurgiter les aliments, les boissons. C'était vraiment très étonnant. Il était venu en parler, c'était très étonnant. Donc, il y a eu ce truc de dream team, de festival de nos rêves, quoi, d'inviter de suite Sophie Kahl, Romain Tigner. On a fait une expo avec David Lynch. Pour moi, c'était fou d'échanger avec David Lynch. Je crois que Michel Houellebecq était venu ici pour son premier roman. Nous, il était venu ensuite. Et puis, il y avait ce truc aussi qu'on a remarqué, que plus on tapait haut, en fait, plus les gens répondaient. C'était vraiment étonnant, quoi. C'était Voilà, et puis à la fin, la dernière édition, on a pu inviter Ed Rocher, Luc Tumant, William Kentridge, des gens qui vraiment étaient très impressionnants pour nous. On a gardé ce statut d'association, en fait, loi 1901, dont j'étais président. On a structuré par des emplois, etc. Et puis voilà, on en parlait hier, et on a décidé l'année dernière de mettre fin à l'aventure, en fait, en ayant juste une série finie, une espèce de CDD, en fait, du festival. Il y aura eu 10 éditions du FILAF à Perpignan. Et puis de continuer l'aventure chacun de notre côté, parce que bon, moi j'étais bénévole, on était une équipe, l'équipe de la sauce, le bureau, etc., étaient des gens qui faisaient autre chose, et chacun continue son aventure dans un autre domaine, mais on continue en fait à collaborer avec des partenaires qui étaient des partenaires du festival, ou soit des institutions, soit des petits lieux à Paris, à Barcelone, à Perpignan, à Montpellier, ailleurs, pour réaliser des choses qui sont associées, mais plus petites, parce que nous, bon, voilà, il y a toujours cette difficulté que vous évoquiez. Nous, on n'était pas une institution. Soit on passait le cap, en fait, de réaliser une vraie structure institutionnelle au sein d'une collectivité territoriale ou pas. Soit alors, ça devenait difficile parce que nous, on voulait vraiment rester indépendants. Et donc, notre choix a été d'arrêter, comme Ferran Adria. Mais je crois que Roland Barthes, dont vous parliez aussi tout à l'heure, avait ce truc dans ses conférences de parler de la vita nova. On se disait, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre, quoi. Voilà, se dire, finir bien, avoir fait ce qu'on a pu faire le mieux et puis passer à autre chose. Voilà, donc c'était une des possibilités. Je sais qu'elle est un peu bizarre, un peu étrange. Mais on avait cette crainte de l'institutionnalisation, de cette difficulté-là, qui nous a amené à donc mettre un terme au festival en ce sens. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'ai amené des petits trucs aussi dans ton.
Ah oui, 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 je voulais vous demander absolument. Mais oui, oui, parce qu'il y a Happening, voilà. Aussi. J'ai de revues dans la foule, ça va, voilà. Être formidable. Avant de donner la parole aux auteurs, j'aimerais boucler un petit peu justement sur ce panorama qu'on a eu de trois festivals qui sont extrêmement différents. Quand on a imaginé cette table ronde, on avait plusieurs pistes. Par exemple, on aurait pu travailler dans la direction des formes d'œuvres littéraires qui sont déjà elles-mêmes une croisée des arts. On a évidemment tout le champ de la BD, des arts graphiques, des ouvrages jeunesse illustrés. Il y a tout le domaine qui se développe de l'audiolivre, où il y a souvent des propositions musicales, etc. Il y a déjà tout ce pan de l'édition, à proprement parler, qui est concerné par la croisée des arts. Et il y a plein de festivals, évidemment, avec ces thématiques-là, et qui nécessairement, par nature, travaillent sur la question des expositions, etc. On a plutôt été chercher d'autres profils. Donc, on a un festival le goût des autres, c'est déjà inscrit dans le titre, cherche l'altérité depuis le début, croise plusieurs formes d'armes. En même temps, on va y revenir. Ça se traduit beaucoup chez vous par différentes formes de lecture, musicale, dansée, théâtralisée. Enfin, vous travaillez beaucoup sur cette question de la mise en scène. On a le Festival de Chambéry qui est pour le coup très très identifié livre, même s'il y a aussi pluriel dans le nom, ce qui n'est pas anodin, mais c'est le festival du premier roman, donc il y a un marqueur très fort livre, mais avec des actions satellites qui vont chercher justement les autres formes d'art, et un festival qui croise fortement deux différents médias, littéraires et audiovisuels. Et on a aussi trois modèles différents dans la construction financière et institutionnelle, avec un festival qui est porté très fortement par une ville, un festival associatif qui est né d'une volonté éducative, on l'a entendu, et un festival associatif aussi de passionnés, bénévoles. Voilà, c'est trois modèles qui sont en même temps très, très représentatifs de la diversité, nous, des dossiers qu'on est amenés à examiner. Et puis alors sur la question des financements, justement j'en parlais tout à l'heure. Donc nous, Société de gestion collective, c'est le livre, mais alors par exemple un festival comme la FILAF, si vous allez regarder, eux ils mangent à tous les râteliers, parce qu'ils ont pu aller chercher chez nos petits camarades de la DAGP et de la SAIF qui s'occupent de l'image fixe, la SCAM qui s'occupe de l'audiovisuel, le CFC qui est un peu œcuménique, et le CNL. Bon, voilà, vous êtes multicarte, donc vous avez pu aller frapper à toutes les portes. Je crois que pour les deux autres, vous m'avez dit que ça n'avait jamais posé problème, qui est ce croisement. Bon, vous, c'était une volonté dès le départ. Vous vous êtes très identifié livre. Nous, c'est vrai que dans d'autres rencontres avec des festivals, on a parfois ce retour du côté de certaines dracs. Je crois que les politiques varient d'une région à l'autre. Et il y a des endroits où des festivals très hybrides ne savent pas très bien à quelle porte frapper. Donc, en tout cas, je crois que ça se développe. Et si on peut à minima passer le message que c'est important que toutes les institutions soient attentives à cette question, que les portes soient ouvertes, qu'il y ait des possibilités de discussion entre les services qui gèrent les différents tuyaux. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, c'est important. C'est le retour que j'ai eu, moi, à d'autres occasions. Oui, Daniela.
Nous, de ce côté-là, on a même l'impression que ce sont des démarches qui sont encouragées. En tout cas, on a des retours assez positifs de tous nos soutiens, de la ville et de département, région et l'État, DRAC et CNL. On sent des ondes positives lorsque on fait des retours, des bilans de notre saison, de nos actions, parce que non seulement c'est cette ouverture de notre cœur de métier qui est la littérature vers d'autres sensibilités, mais ça implique bien évidemment aussi un travail partenarial sur le territoire et au-delà avec des structures dont le cœur de métier n'est pas la littérature, mais c'est la musique, la danse, c'est le théâtre, le cinéma, les sciences aussi, et ça fait partie de la culture aussi, la culture scientifique. Donc c'est aussi en quelque sorte une politique assez vertueuse, en tout cas c'est ce qu'on nous renvoie, de cette volonté de travailler avec d'autres, et du coup d'ouvrir aussi à d'autres publics et de brasser un petit peu et se faire rencontrer les regards et les différents arts. Donc c'est...
Je pourrais apporter le même témoignage, et vous l'avez esquissé tout à l'heure. Lorsqu'on croise ces formes d'art, c'est une manière, je pense, intéressante, intelligente peut-être même, d'aller chercher d'autres publics que ceux qui vont venir d'eux-mêmes à la littérature. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, si je puis le dire vulgairement. Mais voilà, il faut qu'on trouve dans nos organisations les moyens de s'adresser à d'autres publics. Parce que notre but, c'est de partager ce goût pour la littérature. Et pour les autres arts, mais si on va vers les publics qui ne viennent pas vers nous, avec la simple pancarte, simple avec de gros guillemets, la simple pancarte littérature, ça va peut-être pas prendre. Et que si on va les chercher avec d'autres noms, d'autres formes d'art, certaines qui peuvent paraître plus accessibles que d'autres, c'est clairement un moyen qui nous permet de nous adresser à des publics qui ne viendraient pas à nous d'eux-mêmes. Au Havre, on a coutume de dire que le goût des autres, comme lire au Havre, ça s'adresse aux gens qui aiment déjà lire et aussi à ceux qui ne savent pas encore qu'ils vont aimer lire. C'est pas de moi, c'est de monsieur le maire, mais je le place ici parce que je pense que c'est assez vrai et que ça résume bien la manière de faire. Donc nous non plus, on ne vit pas cette manière de concevoir le festival comme un obstacle au financement ou un obstacle face à nos partenaires, mais au contraire, une manière qui, je pense, est assez bien entendue par tous, que c'est une manière précisément d'élargir nos horizons et de ne pas rester, de nous adresser simplement à un public qui a déjà les codes ou qui a déjà l'envie.
Du côté aussi des auteurs, ces nouveaux regards qu'on offre à leur roman, leur écriture est assez intéressante. On voit des retours. Les auteurs ont l'habitude de rencontres littéraires avec un face-à-face, avec un public, questions-réponses. Et là, on fait rentrer d'autres perspectives dans leur roman. Et on trouve qu'il y a également une richesse qui se développe et qui est suscitée du côté aussi des créateurs eux-mêmes.
Merci Daniela de cette transition merveilleuse. Ah, Sébastien veut réagir et non, puis ensuite on entendra.
Juste un mot parce que je pensais à autre chose, mais on l'avait évoqué au téléphone. Donc là, on évoque principalement les financements publics ou semi-publics. Nous, on a eu beaucoup de financements privés en fait. De 40 à 50% des financeurs privés sous forme de soit de mécènes, soit d'entreprises, soit de fondations. Locales, nationales, voire américaines, beaucoup nous ont aidés. Et en fait, les attentes sont super différentes avec le privé. Par exemple, le fait de... lorsque des individus physiques vous donnent de l'argent pour soutenir un festival, ils peuvent attendre d'autres choses que ce que des institutions publiques ont tendance à valoriser, qui sont très différentes. Par exemple, nous, j'ai souvenir de beaucoup de partenaires privés qui n'étaient pas tellement à la recherche de la... Justement, nous, on essayait de démocratiser, etc., tout ce que vous avez évoqué. C'était un des aspects très forts du festival. Mais beaucoup de partenaires privés avaient plutôt tendance à espérer du festival de la découverte et des choses inattendues et pas du tout dans la facilitation. Je sais pas comment. J'ai souvenir, par exemple, que Ness Goldsmith, qui est un poète américain, qui est venu au festival, qui a beaucoup marqué de nombreux partenaires. Heureusement, c'était des partenaires pour qui, en fait, le fait de... inviter Kenneth Goldsmith à un festival, ça ne va pas... Houellebecq, il y a eu 500 personnes dans la salle, il y avait beaucoup de monde, c'était plutôt un problème d'ailleurs pour la sécurité et tout. C'était vraiment compliqué. Et il a été extra parce qu'il est venu à ses frais, il était très discret, très ponctuel, etc. Kenneth Goldsmith, il y avait 10 personnes dans la salle. Mais par contre, les rencontres avec les partenaires, c'est ça que je voulais dire, et pour les financeurs privés, cette recherche de choses plus rares et de découvertes et d'exigences dans la programmation, plus pointues, et puis voilà, ils attendaient ça de nous quoi. De toute façon, on savait qu'on n'allait pas faire des salles combles, parce que si on veut des salles combles, on fait venir Danny Boone ou je sais pas qui, ou des non festival du film comique, là on a du monde, hein. Nous, on savait qu'on était dans quelque chose de relativement difficile. Mais donc on avait des partenaires quand même qui attendaient ça, voilà. Donc c'était pour nuancer en fait.
Merci beaucoup.
Oui, non, en fait je voulais rebondir sur ce qu'a dit Daniela. Et effectivement, du point de vue de l'auteur, ces propositions, ces croisements entre les arts sont d'une richesse incroyable. C'est pas seulement pour aller chercher d'autres types de lecteurs ou un autre public, c'est permettre aux auteurs de recevoir ce cadeau qui est soit une vision ou une adaptation de son travail qui emmène souvent ailleurs. Enfin, souvent, on est surpris par ce que ça a pu évoquer, suggérer, ou soi-même, du coup, travailler à une lecture musicale. Moi, ça m'est arrivé dans le cadre du Festival de Voiron de travailler avec une chorégraphe. Et c'était une espèce de rêve. En fait, on m'a dit, au Festival de Voiron, ils font ça chaque année. Quelle forme vous fait rêver? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire à partir d'un de vos livres? Et j'avais toujours eu envie de faire une lecture avec un danseur, chorégraphe. Et voilà, on nous a fait ce cadeau et c'était extraordinaire. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, un constat aussi, quand j'ai commencé à publier, il y a une vingtaine d'années, moi, j'ai toujours aimé ces passerelles, ces croisements entre les arts. Ça se faisait quasiment pas. Vraiment, c'était très, très rare. Aujourd'hui, les festivals intéressants le proposent presque tous. Et je pense que c'est aussi lié à la façon dont on fait vivre nos livres aujourd'hui. On le constate tous. On fait de plus en plus presque de scènes, en fait. On est devenus un peu comme des musiciens. Et heureusement, non, mais un peu. Il y a encore une fois, il y a une vingtaine d'années, c'est les occasions de porter les livres en dehors du livre lui-même et de la librairie étaient très minoritaires par rapport aux ventes, peut-être espérer être invité dans des émissions de télé ou de radio. Aujourd'hui, je pense que la proportion s'est complètement inversée. On est beaucoup d'auteurs, on en connaît, sont sur les routes en permanence et sont très demandeurs parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une rencontre avec un public. C'est une façon de presque faire encore évoluer son travail et ça se recycle aussi dans ce qu'on va écrire ensuite et imaginer. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et ça a changé peut-être à la fois la perception de la littérature et peut-être le travail d'écriture lui-même. Je pense que c'est, et on l'a vu d'ailleurs au moment du confinement, parce que tout d'un coup, tout ça s'est arrêté. Et je pense qu'on a été beaucoup à avoir l'impression de s'assécher, enfin d'avoir moins de sources d'inspiration, de brassage comme ça, qui en fait nous nourrit sans même qu'on en ait conscience. Donc ça a vraiment pris une place très importante, tous ces échanges, ces croisements, ces passerelles.
Nos lauréats, souvent, ils disent qu'ils ils sont vraiment surpris de la façon dont leurs textes résonnent par le biais d'autres... d'autres moyens d'y accéder, et jusqu'à là, c'est pas notre expression artistique, mais la traduction qui vous est chère, nos lauréats étrangers, lorsqu'on on organise des ateliers de traduction, ils prennent conscience à ce moment-là vraiment comment le texte résonne auprès des lecteurs. Et lorsque un roman peut être transposé sous forme de photographie, sous forme de court-métrage ou autre, c'est... Je pense que Hugo Bourris peut le dire aussi. C'est vraiment un regard différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas, oui, dans des rencontres littéraires.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Carole, c'est vrai que, alors, je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais l'auteur qui se contenterait d'écrire, c'est une espèce en voie de disparition. Ça n'existe plus. L'auteur qui écrit, ça n'existe plus. c'est terrible. C'est-à-dire que, alors, c'est terrible. Non, mais l'auteur, on lui demande d'être aussi un acteur culturel. Voilà. Et d'ailleurs, ça se reflète dans notre rémunération, puisque nous avons les droits d'auteur dits principaux, tirés de l'exploitation commerciale de nos œuvres de l'esprit, mais aussi ce qu'on appelle les droits d'auteur accessoires, qui sont donc voilà, la rémunération.
Boris, il faut absolument que je corrige et que j'aille un cran plus loin que ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que justement, le législateur, d'une certaine manière, prenant acte de la transformation de l'activité des auteurs dans un décret de 2019, a fait passer toutes vos activités, j'en fais moins en tant que traductrice, mais un peu, de présentation de votre œuvre, les lectures y étaient déjà, mais les présentations, les tables rondes, les différentes mises en forme font désormais partie de vos revenus principaux. C'est justement...
Quand il y a une lecture, oui. Quand il y a
une table ronde, une rencontre.
Les ateliers d'écriture et
aussi,
les signatures.
Pas ateliers d'écriture.
C'est droit d'auteur accessoire.
Tout ce qui tourne directement. C'est tout à fait symbolique.
Oui, oui.
Tout ce qui tourne directement autour de la présentation de votre œuvre.
Bien sûr. Oui, oui.
Mais bien sûr, ça ne date que de 2 ans.
Ça, oui.
Et c'est tout à fait le reflet de l'évolution. De l'activité
de demande,
des écrivains, ce qu'on vous demande.
Voilà.
Et je crois que vous êtes volontaire. Tu vas nous donner peut-être des exemples de...
Oui, mais c'est vrai que tu évoquais la musique. C'est les revenus qu'on va tirer des droits d'auteur accessoires, par exemple les ateliers d'écriture, peuvent justement dépasser les revenus principaux, étonnamment. Et tu disais, la SOFIA, c'est l'équivalent de la SACEM pour la littérature. Là, on peut filer la métaphore. Je crois que dans la musique, c'est pareil. Les artistes ont besoin de faire de la scène, beaucoup plus qu'avant. Hein. Alors, là où ça devient intéressant, c'est lorsque on est invité à un événement culturel, on est invité pour rendre compte, en général, d'une œuvre passée. On vient parler, on est invité... parce qu'on a publié un livre. Là où ça devient intéressant, c'est si, en effet, cette invitation suscite et l'occasion, peut-être, pourquoi pas, d'une création, soit volontaire ou involontaire, d'ailleurs, de la part des organisateurs. Moi, je pense, par exemple, à la bande dessinée. J'adore la bande dessinée, j'en lis énormément, et j'avais ce rêve depuis longtemps d'écrire une bande dessinée. Alors, je suis incapable de dessiner, mais j'aurais aimé, voilà, un jour, écrire un scénario de bande dessinée. Et c'est des événements culturels, des manifestations, des festivals, qui m'ont permis de rencontrer des auteurs de bande dessinée que je n'aurais pas rencontrés sinon. Et il y a même eu une rencontre qui m'a permis de une rencontre croisée, j'ai lu un livre qui s'appelle Police, et on a eu l'idée de faire une rencontre croisée avec un auteur qui s'appelle Remedium, un auteur de BD assez engagé et qui a publié récemment 4 forces majeures sur les bavures policières. Et ben ça y est, on est parti, on travaille ensemble pour adapter en roman graphique mon dernier récit, Le courage des autres, que tu as cité. Alors je ne sais pas où ça va nous mener, mais moi, j'ai par exemple, à la suite de ces rencontres avec des auteurs de BD, suivi une formation de scénariste de bande dessinée. Enfin, vous voyez, ça a déclenché quelque chose qui peut-être voilà, va donner lieu à la naissance d'une autre œuvre.
Alors là, il y a l'aval du festival. Il y a le festival qui crée l'occasion d'une rencontre qui va peut-être mener à des œuvres derrière. Il peut y avoir aussi, ça c'est quelque chose d'excellent, c'était d'ailleurs votre premier mot, Dominique, vous revendiquez comme un festival de création, et c'était aussi plus ou moins l'expression qu'avait employée Sébastien lors de notre discussion, et Chambéry également suscite des œuvres à l'occasion du festival, et j'aimerais beaucoup que voilà, vous nous parliez de cette dimension-là, et peut-être en donnant des exemples très concrets de la façon dont ça se matérialise, parce que moi, je dois vous dire, donc moi je suis traductrice littéraire, j'ai la chance, moins que mes petits camarades, de faire le tour des festivals, et la préparation de cette table ronde a été vraiment l'occasion pour moi de découvrir la grande richesse des propositions, c'est vraiment foisonnant d'ailleurs. Tout à l'heure, on parlait de cuisine. On voit que dès qu'on commence à décloisonner, ça devient n'importe quoi. Je vous le dis, on va dans la spéléologie, on va dans la ferronnerie, on va vraiment. L'imagination n'a plus de limite. Mais bon, si déjà on reste dans la croisée des arts, si vous pouvez nous faire goûter un petit peu différentes propositions chez vous, je pense que ça concrétisera.
Oui, je citerai deux exemples, un qui date un petit peu et un qui est très récent. Celui qui date un petit peu, néanmoins, il est quand même symbolique et. On aime le rappeler au goût des autres. Au début du festival, Mélisse de Kerangal a été un peu la conseillère artistique du festival. Elle a des origines havraises, donc elle était aussi intéressée pour participer à cette initiative. Et c'est dans le cadre du goût des autres qu'il lui a été proposé de travailler avec Cascadeur, le musicien, pour une adaptation de Dans les rapides. Et quand le festival lui a proposé, déjà elle ne connaissait pas Cascadeur, elle n'avait jamais fait l'exercice, et effectivement au départ elle se posait un peu des questions sur oula, non, où est-ce que je vais. En réalité, ça a été une vraie rencontre, et je pense que, comme vous le disiez, un des aspects intéressants des festivals, c'est de créer des rencontres, et c'est encore plus chouette s'il y a une vie après. Alors, au Havre, un temps, on s'est aussi intéressé ou questionné, mais voilà, on suscite des créations, qu'est-ce qu'on en fait après ? Est-ce qu'il faut que l'on se transforme en un bureau de tournage, je ne sais pas quoi, suivre ces créations pour qu'elles ne soient pas une seule fois données au festival ? Et puis, ce n'est pas un chemin que l'on a emprunté, parce que c'est un autre métier et qu'on a plein d'autres choses à faire aussi. Mais c'est assez intéressant de voir que certaines créations ont néanmoins une vie après le festival qui n'est pas prise en charge par nous, mais qui, et ça a été le cas pour Mélisse de Kerangal et Cascadeur, qui sont d'ailleurs revenus en décembre dernier, en avant-goût de l'édition 2022 du Goût des Autres, pour proposer une autre création à partir d'un texte de Mélisse de Kerangal, Canoë, qui a été mis en musique et interprété sur scène. Donc ces rencontres créées, ces formats qui ont été très originaux, qui le sont moins maintenant, mais qui sont quand même toujours intéressants et que le public apprécie, ces moments-là sont aussi intéressants pour les rencontres qu'ils créent et pour ce que ça peut engendrer après coup, et vous l'évoquiez. Autre exemple pour la littérature jeunesse, alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Le Goût des Autres se construit au fur et à mesure de l'année avec la collaboration de Faits et Gestes, une agence qui est chargée de la programmation artistique. Mais cet aspect-là, il est aussi partagé avec les équipes locales au Havre. Et au Havre, nous, on travaille plus sur la création jeunesse. Et dans le domaine de la création jeunesse, l'exemple que je citerai est un spectacle qui a été donc proposé en début d'année, mais qu'on va reproposer cet été dans un autre cadre, dans le cadre de Partir en livre, l'événement estival dédié aux livres de jeunesse du CNL. Et donc, ça s'appelle « C'est notre secret », c'est un texte de Raphaël Frière-Tri, qui est publié chez Thierry Magnier, qui a été mis en scène, mis en musique et dessiné. Et là, on a vraiment une proposition qui mixe vraiment pas mal d'expressions artistiques.
Vous pouvez rajouter le parfum, petites bouchées apéritives.
Presque, parce qu'on va le redonner en plein air dans un square cet été. Donc, on n'est pas loin.
Parmi les actions que nous menons, je pense qu'on on peut évoquer quelque chose dont vous pourriez faire l'expérience pendant ce festival. Clara Dupont-Monod, notre invitée d'honneur de cette édition, son dernier roman s'adapter a été confié à plusieurs groupes de personnes, on va dire, de l'école primaire jusqu'aux professionnels de la photographie, pour que ces personnes, ces élèves, ces jeunes, ces adultes et ces professionnels s'approprient de son roman et qu'ils en fassent une transposition. Donc les transpositions, tu les as évoquées, vous pouvez les voir dès à présent une fois sorties dans la verrière ici du Centre des Congrès Le Manège. Oui, ce sont les petits, donc les écoles primaires, qui ont exprimé leur retour de lecture sous forme de petites œuvres artistiques, plastiques, qui mélangent écriture et dessin. Le même roman a été lu et transposé par les étudiants de l'école d'art appliqué et graphisme LINAI. Donc ce sont des étudiants qui deviendront des professionnels et dont leur parcours leur permet de vivre une expérience un peu différente par rapport à ce qu'ils vivent lors de leurs études. C'est de lire le roman et d'en faire un retour de lecture sous forme de dessin, sous forme d'œuvres graphiques. Et aussi, donc on a fait cette année, la première année, un concours photo, encore une fois, à partir de s'adapter. Et ces deux expositions de l'ENAI et des photos, vous pouvez les voir à l'espace Malraux, dans les salles d'exposition. Donc c'est un peu, on tisse un peu un fil qui relie tous nos publics. Le public scolaire, le grand public et également les professionnels. Il y a des professionnels, de photographes professionnels qui ont contribué à cette exposition. Donc ce sont des propositions que nous faisons pour l'invité d'honneur. Un autre exemple qui n'est pas présent cette année, à cette édition, c'est un projet que nous avons développé sur plus de 10 ans avec un lycée de Chambéry, le lycée Louis Armand, où il y a une section audiovisuelle. Le projet s'appelle « Filme-moi des mots ». C'était des élèves qui lisaient des premiers romans et qui en faisaient des courts-métrages, en soignant vraiment toutes les phases de la production, le scénario, l'organisation du tournage, le tournage, le jeu, la diffusion et ensuite ces courts-métrages pour évoquer le fait que... Et après, ces courts-métrages, certains d'entre eux ont participé à des festivals, à des concours, ont reçu des prix du court-métrage, donc ils ont eu aussi une petite vie. Mais il est vrai que nos contributions, nos créations sont essentiellement vont vers des publics d'amateurs. On a aussi fait des rendez-vous avec des professionnels, mais c'est vraiment un peu plus dans notre ADN, le fait de permettre à tout lecteur de s'exprimer par le biais de son moyen d'expression privilégié.
Merci beaucoup. Sébastien, je ne sais pas ce que vous aviez en tête, est-ce que je peux vous encourager à nous parler de la maison d'édition éphémère ?
Ah oui. Ben on avait parlé, oui. Alors, parmi les, effectivement, il y a cette alternative possible lors d'un festival. On sent bien qu'à force de réunir des auteurs, des artistes, des réalisateurs, on sent bien qu'il y a une effervescence. Enfin, que c'est des gens pas comme les autres, quoi, qui ont quand même un pouvoir de création, d'imagination. Et ça, dans la durée d'une semaine de festival, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place en fait spontanément. Et après, il y a une phrase d'un membre du jury, qui était musicien d'ailleurs, membre du groupe Phoenix, qui était venu au jury et qui avait dit, mais en fait, un festival, il y a un truc d'amitié quand même, il y a fête en plus dans le mot festival. Nous, on est allé peut-être, notamment les premières années, un peu trop loin dans le côté fête. Et,
c'est le sud, c'est Perpignan.
Peut-être, il y avait ça. Il y a un peu ça, mais on a corrigé, mais on a conservé quand même, parce qu'on ne voulait pas devenir le festival du vin rosé et de la paella. Hein. Je crois qu'effectivement, et on en parlait ensemble hier, c'est vrai que le repas, ça crée quelque chose quand même, quand on mange ensemble avec des gens. Alors nous, on a conservé ça, et en fait, on a invité tout le monde, c'est-à-dire les auteurs, les membres du jury, etc., mais aussi les stagiaires, mais aussi tous les étudiants qui participaient, etc., étaient à la même table que tous les invités d'honneur. Il y avait vraiment et ça finissait souvent. Chaque soir, on avait des intervenants musicaux de Perpignan, alors soit des groupes de reprise, de funk, etc., qui faisaient danser, soit des gitans de Perpignan, parce qu'il y a une grande communauté gitane qui faisait. C'est arrivé à une exposition qu'on avait faite avec Pierre et Gilles, qui avait fait des chants religieux gitans, qui étaient vraiment stupéfiants. Donc, on voulait vraiment mélanger les choses, et donc les gens se mettaient à collaborer quoi ensemble. Et donc avec Laura Morschkin, une des membres de l'équipe, on a eu cette idée de créer une maison d'édition éphémère. Effectivement, ça faisait partie. Il y a eu des films aussi qui ont été créés. Tu parlais tout à l'heure de Maëlys Kerengal. Elle est venue l'année dernière nous parler de Claude Simon. On a fait tout un focus sur Claude Simon. Elle en faisait partie. Il y a un petit film qui a été associé à ça. Il y a une édition aussi. Et voilà, donc on a créé des livres, mais avec des moyens de bureautique, en fait. Un photocopieur. On avait un partenaire privé qui nous filait deux photocopieurs, en fait. Une agrafeuse. Ouais, c'était le luxe. Hein. Il râlait un peu parce que...
La folie des grandeurs.
Alors, moi, j'ai cru lui faire plaisir. Je vous dis une anecdote. J'ai cru lui faire plaisir... Repro système à Perpignan. J'ai cru lui faire plaisir en lui montrant les éditions, en fait, en lui donnant voilà telle et telle édition, ça c'est super rare parce que c'est Arnaud Labelle-Rejoux, Jean-Michel Alberola qui l'ont fait, etc. Et donc on lui donnait. Et il disait, mais qu'est-ce que vous avez fait avec mes photocopieurs? Vous poussez le noir, vous poussez le rouge, vous poussez les trucs. Donc on lui a plus rien donné parce qu'il s'intéressait pas à l'art, en fait. Et donc on est non, ça s'est super bien passé, il y a eu du monde, on lui montrait des photos, et donc ouais, il y a eu des trucs assez étonnants. Ben, Pierre et Gilles, les artistes que vous connaissez sans doute, ont passé toute une nuit à photocopier leurs tatouages et à faire un fanzine à partir de leurs tatouages du corps et ces trucs. Ouais, on a des photos. Si vous allez sur notre Instagram, tout est archivé. Ils ont photocopié Toto, leur chien aussi. ouais. Et donc c'est vraiment étonnant ce qu'on peut faire avec un photocopieur. On a aussi et surtout c'est étonnant ce que les créateurs en fait peuvent faire en détournant des moyens courants et même avec un téléphone quoi, on peut faire des Polaroids aussi. On a mis des Polaroids à disposition de tout le monde et il y a vraiment eu des choses super étonnantes. On avait acheté une machine, ça je vous le recommande aussi à tous les festivals si c'est pas déjà fait, hein, on n'invente pas tout, une machine à faire des badges. Et on peut, en fait, on peut imprimer ce qu'on veut sur le badge à l'unité. Ça revient à rien, quoi. Et donc, les gens se mettaient à faire des slogans assez étonnants. Alors là, c'est une année, j'ai pris celui-là au pif, il y avait marqué « Voir ma signature sur le contenu d'un livre ». C'était un des rêves des invités. Voilà.
Mais il y a dans cette proposition de maison d'édition éphémère, justement, cette idée de l'instant vécu, de l'effervescence d'un moment. Oui. Qui n'a pas forcément vocation à se traduire par une œuvre, qui va avoir tout un plan de diffusion. Vous m'avez dit commercialisation, on est nul. Il y a un peu ça aussi. Voilà, ouais. Vous ne portez pas nécessairement ce qui s'est créé. Il y a une magie du moment. Alors Hugo, ce serait absolument d'accord avec vous. On va pas pouvoir peut-être creuser complètement cette question. Je savais que ce serait très frustrant parce que voilà, on lance des pistes. C'est ça part dans tous les sens. Vous voyez, j'aimerais interroger vraiment Carole et Hugo sur cette question justement de l'effet de se voir autrement. Parce que vous disiez, si vous avez des souvenirs de rencontres avec votre propre œuvre transposée, transformée, ça peut se passer bien ou mal. Enfin, Daniela me racontait qu'il y avait un auteur qui avait été extrêmement surpris de la transposition audiovisuelle de son œuvre par des lycéens, qui avait même eu une réaction négative sur le coup. Et puis, il y avait eu un chemin, il y avait... C'était même pas la bonne œuvre qui avait été transposée. Et puis finalement, il y a eu une rencontre, un échange ultérieur où il a pu comprendre pourquoi les étudiants avaient pu lire ça chez lui. Donc voilà, toute expérience humaine un peu forte peut aussi susciter des émotions négatives. Je finis. Je voulais juste de dire à quel point l'expérience d'hier soir avec Clara Dupont-Mono était là aussi un très beau moment vécu, qui n'avait pas forcément vocation à être filmé, gardé, archivé, mais il y avait chez elle, comme chez beaucoup d'auteurs, une grande générosité et une grande curiosité de ce qui avait été fait avec son œuvre. Je pense que j'ai deux représentants du même état d'esprit. Peut-être que tous les auteurs ne sont pas dans cet état d'esprit. Donc, en tout cas, voilà, je voudrais vous réentendre sur l'ensemble de ces questions.
Oui, bon,
oui, je pensais à 20, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que je voulais conclure un petit peu en sachant qu'on n'aura pas fait le tour de toutes les questions.
Oui, parce que ce qui me vient évidemment à l'esprit, c'est dans mon cas, c'est l'adaptation au cinéma de mon livre Police. Je sais, pour en avoir rencontré, que certains auteurs ont perdu de l'espérance de vie en regardant leur œuvre adaptée. Certains même refusent ensuite. Bon, j'ai eu la chance, ça n'a pas été mon cas. J'étais très heureux et même tellement heureux que je me suis surpris la première fois que j'ai vu le film à être curieux de la suite. Qu'est-ce qui allait advenir dans le film? Oui, c'est ça, bah, complètement. Oui. En plus, la fin est différente. Donc, moi, c'était une expérience très, très heureuse. Et même par moments, c'était émouvant d'entendre dans la bouche des comédiens des répliques, des phrases de dialogue du livre, mais aussi parfois un sentiment un peu d'envie, de jalousie, de dire « Ah tiens, ça, j'aurais bien aimé l'aimer. » Voilà.
Moi, j'ai eu aussi une expérience d'adaptation au théâtre. Et là, ça a été très ambigu. En fait, à la fois, c'était un rêve qui se réalise. Et c'est incroyablement émouvant de voir un texte. C'était feu pour feu. Et en même temps, c'était une adaptation très particulière. Vraiment, le metteur en scène avait ramené ça dans son univers à lui, qui était très flamboyant. C'était un Italien. Enfin, bon. Donc, c'était très étrange comme situation. Mais je m'étais tellement préparée au fait que, comme tu le dis, que ça t'échappe. En fait, c'est autre chose. Une adaptation, c'est toujours autre chose. C'est encore une autre œuvre. Peut-être un peu moins, d'ailleurs, au théâtre qu'au cinéma. Où, au théâtre, les mots restent quand même. Le texte reste, alors qu'au cinéma, tu ne retrouves plus grand-chose de ce que tu as écrit. Mais donc, c'était une expérience formidable. Mais pour en revenir plus à un contexte de festival ou de rencontre... j'ai un souvenir assez désastreux aussi d'une rencontre où des lectures étaient organisées, donc c'était des lecteurs, c'était pas des comédiens, des lecteurs, mais leur idée, pour être originale, c'était de lire en même temps, donc à deux lecteurs, le même texte. Et c'était une horreur, c'était que tous les auteurs qui étaient présents en même temps, donc on ne comprenait rien. Et en même temps, c'était impossible en fait de faire une remarque parce qu'ils étaient tellement investis, oui, dans leur performance et persuadés de faire quelque chose de tellement innovant, de tellement intéressant, que on était vraiment plusieurs auteurs à subir cette torture. Et moi, c'était vraiment il y a très longtemps en plus, donc j'étais mais estomaquée qu'on puisse faire ça, parce que il y avait quelque chose aussi de la trahison par rapport au texte, à ce qu'on a, en plus quand on vraiment fait attention à chaque virgule, chaque silence, chaque petit détail, et là c'était un massacre vraiment en règle. Donc ça, c'est un souvenir assez traumatisant, mais en même temps drôle, et aussi avec un respect de finalement ce qu'ils avaient proposé, parce que les artistes à ce moment-là, c'était eux. Donc c'est comme ça. Et, Mais la plupart du temps,
non, mais restons sur cette note négative. Moi, je trouve ça très bien.
C'est pas négatif,
les tableaux
c'est surprenant,
tout le monde est toujours content et tout est toujours très beau. C'est pas vrai. Des fois, c'est raté. Des fois, il y a des problèmes techniques. C'était d'ailleurs une des questions qu'on aurait pu vraiment creuser, de savoir si les festivals littéraires sont en train de devenir des spectacles des lieux de spectacles vivants. Donc, il y a le risque qui va avec. Il y a la magie ou pas. Et ça fait partie du tableau. S'il y a des questions, je crois que c'est le moment est venu. Et s'il n'y en a pas, moi je tiens l'après-midi. Hein, donc, est-ce que vous avez apporté donc des exemplaires de c'était ça hein, des exemplaires de la production?
Alors oui, c'est des
de
petites choses
éphémères.
Ouais, c'est des petites choses. Je l'ai regardé ce matin. Alors. Et par exemple, ça, c'est tout est fait à la photocopieuse. Là, l'artiste qui gérait les photocopieurs, Laura Morchkine, avait demandé aux invités de noter ce qui les rendrait heureux. C'est au moment des repas. Elle passait
avant ou après le vent.
Ouais, ouais. Et c'est assez touchant, quoi. Il y a vraiment des invités qu'on retrouve. Et c'est une belle trace. Et ce qui est marrant, c'est qu'Arnaud Labelle-Rejoux, qui est un artiste que vous connaissez peut-être, avait marqué ça, écrire, 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 ce qui le rendait heureux. Et je lui ai envoyé un texto ce matin parce que j'ai vu que Sally Bonne, ou Boone, je ne sais pas comment on prononce, a sorti un livre dont c'est exactement le titre. Écrire, écrire, écrire. Vous l'avez vu ? Ouais. Et voilà. Ensuite, on a fait... Enfin, ils ont fait ça aussi. C'est un hommage qu'on a rendu à Claude Simon, l'auteur prix Nobel, qui est né à Perpignan et qui a vécu à Perpignan et qui est sans doute le prix Nobel le moins célébré de France. Hein. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est né à Perpignan? Je ne sais pas. En tout cas, à Perpignan. Non, mais ça rend parano parce que Perpignan, c'est une ville bizarre quand même. Et la rue où il est né, la rue où il a vécu, en fait, où il y a son hôtel... particulier, s'appelle la rue de la Cloche d'Or. Ah non, mais ça c'est aussi, c'est propre à Perpignan aussi, il y a des gens un peu bizarres. Mais nous on a rendu un hommage à Claude Simon et justement Maïs de Caringal est venu parce que c'est un des auteurs qui l'a le plus marqué. Et ça en fait c'est une retranscription d'un jeune artiste qui vit à Perpignan et bon, qui montre ses œuvres ailleurs, qui a fait le tour des lieux de Claude Simon à Perpignan, notamment l'endroit où il y avait l'acacia qui a donné son titre au livre. Il a réalisé des aquarelles et immédiatement, tout est fait pendant le temps du festival, en fait. On a réalisé ça à quelques exemplaires. Alors, on est nul pour la vente, effectivement. Mais c'est super dur à vendre parce que ça n'a pas de sens après de le mettre dans des librairies. Donc, on le donnait aux gens ou voilà, ça circulait. Il y en a quelques-uns à droite, à gauche. Et après, je ne sais plus ce que j'ai marqué. Alors ça, c'était l'affiche du festival 2020. Ça, c'est la pochette. Dedans, il y a des éditions. Ça nous a valu... Alors, je déconseille vivement d'avoir ce genre d'affiche parce qu'on s'est aperçu, en fait, qu'on est super censuré sur Instagram et sur les réseaux. Donc là, pour nous, c'était une maternité parce qu'en fait, donc, c'était l'anniversaire du festival et on trouvait ça beau. C'est une photo d'Arnaud Pivka qui a fait toutes les photos de nos affiches. Et on a pris un tsunami de censure, ouais. Voilà, ça c'est une série de Polaroid aussi, donc vous voyez c'est juste des A4 pliés de Polaroid photocopiés de Julien Carin et Lucie Rico, l'écrivaine aussi qui a posé pour les Polaroid.
Par association d'idées, ça me fait penser, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est quand vous m'aviez raconté cette expérience de création en direct, collective, atelier ouvert. L'atelier était ouvert y compris au public, oui. Avec un public familial.
Ah oui. Alors, on impliquait les parents. C'est vrai qu'il y a ce truc des scolaires. Alors, moi, je suis prof, hein, et je prêche. Enfin, dès qu'on fait quelque chose, le contraire de ce qu'on fait est justifiable. C'est toujours ce truc. Hein. Voilà, on peut dire une chose et son contraire. Donc, faire venir les élèves, j'ai vu qu'il y en avait plein, c'est vraiment phénoménal. Nous, on n'est jamais arrivé à faire ça. Alors, les dates du festival n'étaient un peu pas propices à faire ça. Mais par contre, on arrivait à impliquer des familles, effectivement, les parents. Parce qu'il y a cette tendance à faire de l'art ou de la littérature ou du cinéma un truc scolaire en disant, voilà, c'est les profs qui vont s'en occuper. Et puis après, alors nous, on impliquait les parents parce qu'on trouvait que c'est comme ça qu'on vivait l'art. Et c'est bien d'en parler quand les enfants voient un film ou le voir avec les parents. D'ailleurs, d'échanger à ce sujet-là. Donc c'était plutôt des familles en fait qui venaient et autour de la photocopieuse, ouais, il y a eu des moments où voilà, Raymond Petitbon ou des artistes, Jean-Michel Alberola, ont collaboré avec des enfants qu'ils connaissaient pas, mais spontanément quoi. Il y avait pas de cadrage d'atelier vraiment avec des étapes et des choses comme ça. C'était plutôt des productions spontanées. Voilà.
Mais ils arrivaient à vous comment? Par quel
Ah non, on les faisait venir quand même. Oui, oui.
Oui, mais vous les faisiez. Vous alliez. On va peut-être finir parce qu'on a encore quelques petites minutes. Du coup, on vous réentend chacun une petite minute justement sur cette question du public. Quel public on va chercher? Comment? Par quel biais? Il y a la question des lieux, des partenariats que vous pouvez nouer. Je sais pas. Je pense par exemple au conservatoire. Là, d'un seul coup, c'est pas forcément des lecteurs, mais ça crée des passerelles. On peut peut-être essayer de faire un. Voilà. Est-ce que vous voulez léguer à la postérité sur cette question?
Nous, je réponds juste à votre question. Je lâche le micro. On faisait venir par des cadeaux, en fait, sur Facebook. On faisait des jeux. Et on disait, voilà, les enfants, venez, vous aurez ceci, cela. Et les
cadeaux bonus.
Ouais, ou alors des passes pour le festival. On offrait un pass de la semaine pour le festival. Avec la radio locale, on faisait, dès qu'on fait gagner quelque chose, en fait, les gens...
Les réseaux
ou la radio. Ou, dès qu'on fait gagner des trucs, les gens, ils jouent. Hein.
Ben nous, c'est toute la démarche de partenariat dont je parlais tout à l'heure. On a un très, très volet qui concerne les publics scolaires. Les deux journées du festival, jeudi et vendredi, dédiées quasiment exclusivement aux rencontres scolaires. Et en fait, toute cette jeunesse qui vient à nous, c'est grâce au travail des enseignants. Des enseignants documentalistes, lettres, langues, histoire, philo, et ce sont véritablement on travaille ensemble, on fait équipe, et les publics jeunes viennent essentiellement par ce biais, et grâce à cette participation un peu, on va dire, contrainte, mais ensuite on les retrouve, ces jeunes qui viennent parfois avec leurs parents, où ils viennent peut-être après, quand ils sont à l'université, et spontanément. Donc on arrive un peu à cultiver, grâce au travail des enseignants, des bibliothécaires, et puis des acteurs culturels du territoire, en sens large, avec lesquels on travaille. Et c'est les publics qui viennent à nous de cette façon-là.
Je pourrais dire un peu la même chose, mais je vais rajouter aussi, en réfléchissant à impliquer ces publics-là dans la création. Et en travaillant avec eux en amont du festival, alors c'est peut-être de la dentelle, hein, mais travailler avec une classe en particulier autour d'ateliers d'écriture qui vont donner lieu à une performance, une lecture, à que sais-je, sur le temps du festival, ça permet aussi évidemment de les voir débarquer au festival. Mais ça demande effectivement un travail en amont assez élaboré, mais c'est une manière aussi d'aller chercher d'autres publics. Et puis pour finir, c'est aussi faire la fête. Alors, on ne le fait plus, mais on l'a fait un certain nombre d'années. Nous, on faisait la fête dans la piscine.
Carole et Hugo, une dernière impression sur la fête. Ça te connaît, Carole?
Qu'est-ce que c'est que cette allusion? Oui, non, mais ça me paraît une dimension indispensable. Il ne faut surtout pas lâcher ça. Et est-ce que ça peut être trop? Je ne suis pas sûre. C'est effectivement, ça doit être un moment de réjouissance, de joie, et Dieu sait qu'on en a besoin, donc oui, c'est une dimension essentielle.
Samedi soir, bal littéraire.
Oui, la municipalité veille. Hein.
Veille, mais c'est cadré, mais ça va avoir lieu et ça sera super. Donc vous êtes tous invités, place Métropole, à partir de 20h30.
Sébastien parlait de manger ensemble, l'importance de manger ensemble, c'est fou, on ne se rend pas compte. Et prendre la voiture aussi ensemble, parfois, ça crée des intimités. Ouais.
Bon, eh bien, avant que nous allions manger tous ensemble, donc je vais remercier vraiment chaleureusement mes cinq participants. Je pense qu'au bout, je vous ai fait part de mes doutes, de mes réticences. Moi-même, on mesure à quel point vraiment on sert le livre à travers toutes ces propositions qui partent du livre, qui retournent au livre. C'est vraiment extrêmement riche et combien les festivals sont devenus des lieux de rencontres, d'expériences et de joie. Voilà, c'était ça aussi quand j'ai préparé avec vous, c'était extrêmement, extrêmement prégnant. Donc voilà, merci à tout le monde, merci aux spectateurs et bonne suite de festival. Merci.